Voilà, écoutez, je vais encore m'incliner et prier et remettre ce temps de la parole au Seigneur. Seigneur, merci en effet pour cette journée que tu nous accordes encore ici, où nous pouvons venir et t'adorer librement, Seigneur. Merci pour tes bienfaits à notre égard. Tous ces bienfaits totalement immérités. Seigneur, nous nous rappelons encore que la seule chose que nous méritons de toi, c'est l'enfer éternel. Car notre péché est une offense à un Dieu parfaitement et totalement saint. Et Seigneur, tu étais et tu es justifié de nous condamner pour toujours, Seigneur. Mais ta grâce a surabondé, Seigneur. Tu nous as offert ton Fils Jésus-Christ gratuitement comme solution à notre péché. Seigneur, tu as pris sur toi notre condamnation. Tu as été coupé du Père, Seigneur. Mais tu es ressuscité, vainquant la mort, vainquant le péché. Et Seigneur, ainsi nous donnons la vie éternelle à ceux qui croient en Christ. Seigneur, comme tous les dimanches, nous ne pouvons que nous prosterner devant toi et te dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant, Seigneur. Je te prie de nous façonner à ton image. Je te prie que nous soyons des vases d'honneur et pas de déshonneur. Que nos vies, Seigneur, soient un reflet de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais notre péché. Tu connais les imperfections encore dans nos vies. Tu les connais mieux que tous. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés. Nous te remercions pour l'œuvre de Christ à notre égard. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à grandir, à être fortifiés en toi. Seigneur, aide-nous à avoir un regard vers l'extérieur. Tu vois un monde autour de nous qui périt. Une ville comme Genève, oui, qui donne l'impression d'être très riche. Mais Seigneur, qui est pauvre, pauvre spirituellement. Et Seigneur, nous te demandons de croiser nos chemins avec des personnes qui ont besoin d'entendre et que nous ayons le courage de leur annoncer l'Évangile. Seigneur, je te prie pour notre Église aussi. Pour nous qui sommes dedans, qui faisons partie de cette assemblée. Et surtout par rapport au message d'aujourd'hui, Seigneur, que nous soyons vraiment vite à nous aimer les uns les autres, à nous exhorter les uns les autres, à nous pardonner les uns les autres. Seigneur, que notre Église soit plus que simplement une Église, mais que nous soyons vraiment un groupe d'hommes, femmes, d'enfants, où Seigneur, l'amour de Jésus-Christ est manifesté puissamment. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Bénis ta parole maintenant, Seigneur, qu'elle nous touche au plus fond de notre cœur. À ta gloire, je te prie. Amen. Voilà, bah écoutez, je vous invite à ouvrir vos Bibles, et là, je vais le dire peut-être pour la dernière fois, à 2 Timothée chapitre 2. Car théoriquement, c'est mon dernier message dans 2 Timothée chapitre 2. Alors, en y allant, je vais juste en quelques instants réviser pour que vous soyez au courant. Si vous êtes ici pour la première fois, ou si vous aviez raté une partie de la dernière série que j'ai donnée, parce que c'est en fait la quatrième partie d'une série, c'est un message que j'ai intitulé « Les éléments d'une vie chrétienne solide ». Les éléments d'une vie chrétienne solide. Et la clé de ce chapitre, avant d'arriver aux versets qui sont les nôtres ce matin, la clé se trouve au verset 1. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ ». Donc, vous rappelez que Paul est à Rome en prison, Timothée est un jeune pasteur dans l'église d'Éphèse, et franchement, Timothée galère. D'un côté, il est frustré et il est presque déprimé, on pourrait dire, du fait que Paul est en prison et qu'il va bientôt mourir. De l'autre côté, il connaît dans l'église un certain nombre de problèmes liés surtout à la doctrine, et là, il est un petit peu dépassé par les événements et il a quelque part envie, peut-être même carrément, d'abandonner. Et ce que lui dit ici, regardez au verset 1, « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Il lui dit, « Redeviens fort, Timothée, continue d'être dynamique comme tu l'étais auparavant. » Mais alors, comment fait-on pour se fortifier dans le Seigneur, surtout si on va mal? Si on est déjà mal vis-à-vis du Seigneur, eh bien, le verset 1 nous le dit, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et donc, il faut puiser dans le Seigneur et de ses ressources pour pouvoir retrouver ce zèle qu'on aurait peut-être perdu par rapport au passé. Alors maintenant, pour motiver Timothée et le fortifier dans le Seigneur, dans ce deuxième chapitre, Paul donne 8 analogies pertinentes qui deviennent un rappel à Timothée des éléments d'une vie chrétienne solide. Timothée, si tu veux être solide, si tu veux retrouver un zèle, je te donne ces analogies, des illustrations comme booster dans ta foi. Donc on a déjà vu les 7 premières, je ne fais que les mentionner ici. Il a premièrement pris l'analogie d'un formateur, deuxièmement d'un soldat, troisièmement d'un athlète, quatrièmement d'un cultivateur, cinquièmement du sauveur, sixièmement d'un ouvrier et septièmement d'un vase. Et aujourd'hui, nous arrivons à cette dernière analogie, celle d'un serviteur. Celle d'un serviteur. Et j'aimerais vous lire les versets qu'on va examiner. C'est 2 Timothée 2, versets 24 à 26. Il n'y a pas beaucoup de versets, mais comme d'habitude, ces versets sont très denses de vérité. D'accord? On va lire 2 Timothée 2, 24 à 26. Paul écrit, « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. » Waouh. Alors, c'est parti. En fait, sachez que j'ai beaucoup réfléchi à ces versets, bien sûr, dans ma préparation de ce message. Et je me suis posé la question suivante. Pourquoi sont-ils là? Une question importante à poser. Pourquoi cette analogie-ci comme 8e analogie pour encourager un pasteur découragé? Comment ces versets vont-ils encourager un pasteur découragé? Je trouve que les questions sont intéressantes, pas vous? Surtout si vous êtes un pasteur découragé. Ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Je ne suis pas découragé. Mais peut-être je serai un jour. Donc il faut bien comprendre ces choses. Et je ne crois pas que c'est que lié à être un pasteur. On peut être découragé. Ceci va nous aider à ne pas être découragé. Alors quelle est la réponse à ces questions? Je pense que la réponse se trouve au verset 25, que je pense ce verset 25 est le cœur, le thème principal de ce bloc de versets. Là, il dit, parlant du serviteur du Seigneur, il doit redresser avec douceur les adversaires. L'impression en examinant ces versets, c'est que le verset 24 et le verset 26 pointent clairement à ce propos central. De fait que le serviteur de Dieu, le serviteur du Seigneur, va être appelé dans son ministère à devoir corriger les adversaires. Et ça, c'est parfaitement logique dans le contexte. Vous dites, mais alors, attends, comment est-ce que ça va encourager un pasteur découragé? Ah, bonne question. Alors, voyez-vous, il faut se rappeler maintenant que Timothée est découragé. Pourquoi est-il découragé? Parce qu'il y avait un grand nombre de personnes dans l'Église qui disaient et enseignaient n'importe quoi. Ça, on le voit dans 1 Timothée 1,7, par exemple. « Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Donc, il y avait des gens dans l'Église qui se prenaient pour des enseignants, mais ils faisaient tout faux, en fait. Ensuite, on est maintenant dans le chapitre 2, verset 24. « Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. » Il doit être propre à enseigner, qui veut dire qu'il y avait des gens qui provoquaient des querelles dans l'Église. Lui, il ne devait pas rentrer dans ce jeu-là, mais il y avait des gens qui provoquaient des querelles. Verset 23 nous disent qu'il y avait des discussions vaines et folles dans l'Église. Verset 23 repousse les discussions folles et inutiles. Donc on commence à aligner ces choses et on voit le genre de choses qui se passaient dans cette Église. Verset 18. Verset 16, évite les discours vains et profanes. Et ensuite, au verset 18, parlant de Hyménée et Philette au verset 17, qui se sont détournés de la vérité. Bref, il y avait des erreurs théologiques flagrantes dans cette église. Verset 14, rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Il y avait des problèmes, graves problèmes doctrinaux dans cette église, de gens qui propageaient cette erreur et cela troublait l'église. Et donc, il fallait les faire taire. Il fallait arrêter ces gens. Alors, je vous pose une question. Quelle est notre première réaction lorsqu'il y a des problèmes dans l'église et lorsqu'il y a des personnes qu'il faut aller voir, qu'il faut aller peut-être confronter, voire discipliner? Si vous savez que vous devriez le faire, quelle est votre première réaction? Oh non. Moi, y aller, on a envie de fuir dans la direction opposée. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont envie d'aller confronter quelqu'un, qui ont envie d'aller exhorter quelqu'un. C'est pas facile. Donc, la fuite, c'est peut-être la réaction première, presque naturelle. Et on trouve toutes les excuses imaginables pour ne pas faire ce qu'on doit faire. Personne n'aime les conflits. Surtout si on ne connaît pas les résultats. D'aller voir quelqu'un, si on ne connaît pas les résultats, on se dit, ben non, allez, on laisse, on attend. On attend. Et voilà exactement où en était Timothée. Il en avait tout simplement marre. Il avait marre des problèmes, marre des personnes qui provoquaient des problèmes, et lui, il voulait tout arrêter, fuir. Et de ce fait, dans cette section, Paul lui rappelle son devoir. Son devoir en tant que serviteur du Seigneur, il lui dit tout simplement, Timothée, la fuite n'est pas une option. Il faut au contraire rentrer dans l'arène. Alors, mais il va expliquer comment. Avec beaucoup de doigté, et il faut, verset 25, redresser les adversaires. Il faut tout faire pour essayer. Et, comment est-ce que ça encourage un pasteur? C'est tout simple. Notre zèle et notre dynamisme, l'émotion positive, revient lorsque nous obéissons au Seigneur. Dieu bénit toujours l'obéissance, même si elle est vraiment difficile. Quand tu obéis, Dieu bénit, même si tu n'as pas envie. Alors, j'aimerais vous montrer un exemple. Allez avec moi à 2 Samuel, chapitre 11. Un exemple que vous connaissez bien. Mais je vais vous montrer cet exemple parce que je le trouve génial et c'est la fin de l'introduction avant qu'on attaque le message proprement dit, d'accord? C'est encore l'intro, là, d'accord? Il y a l'exemple de quelqu'un qui a osé confronter quelqu'un, qui devait confronter parce que le Seigneur lui a appelé de le confronter. Et le Seigneur a vraiment béni. Vous connaissez l'histoire, c'est dans 2 Samuel 11, c'est le roi David. Je vais lire assez vite, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Il faut rappeler à Jérusalem, où je suis allé plusieurs fois, et les toits sont plats et c'est une colline. Donc on peut du haut descendre et voir les autres toits. Et donc il a dû voir là une femme qui se baignait, donc qui était Bathsheba. David fit, verset 3, demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, fille d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte, et elle fit dire à David, je suis enceinte. Donc, le roi David commet l'adultère. Maintenant, la suite de l'histoire est intéressante. Verset 13, David invita à manger et boire en sa présence. Donc, il fait appeler le mari de Bathsheba qui vient. Et maintenant, c'est un problème, donc il veut l'éliminer. Donc, il l'invite, il l'enivre, verset 13. Donc, maintenant, il saoule quelqu'un exprès. Et le soir, Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Et il écrivit dans cette lettre, « Place Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Donc maintenant, il complote l'assassinat du mari de Bathsheba. Puisque le mari ne voulait pas coucher avec elle parce qu'il est un homme d'armée, alors maintenant il l'élimine en le faisant tuer. Et c'est exactement ce qui s'est passé au verset 17. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Péché sur péché. Verset 26. La femme d'Uri apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher, la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Maintenant, regardez la fin du verset 27. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Pas bien. David, vraiment ce que tu as fait, c'est monstrueux. Adultère, tu enivres un homme et tu le fais tuer. Alors, question, comment confronter le roi David de son péché? Qui va y aller? Qui sont les volontaires? Je ne crois pas qu'il y en a trop. C'est intéressant. Qu'est-ce que Dieu fait ici? Il appelle un prophète. Chapitre 12, verset 1. L'Éternel envoya Nathan vers David. Écoutez, moi, il faut vraiment réfléchir à Nathan. Quel homme! Quel courage! Vous vous rendez compte que Dieu vous appelle pour aller confronter l'homme le plus puissant du pays, sachant que ça pourrait très mal terminer. Alors Nathan, avec un doigté, mais absolument majestueux, utilise une parabole. Il va vers David, verset 1, et Nathan va vers lui et lui dit, « Il y avait dans une ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, et en très grand nombre. Le pauvre n'était rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée et la nourrissait. Elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui et il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Le riche vole au pauvre. » Alors, c'est David qui écoute cette histoire. Alors, David, il est dans son péché. Donc, il pense pas très clairement, parce que quand on est dans le péché comme ça, on pense pas clairement. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait ça mérite la mort. Ah, c'était clair pour David. Il mérite la mort. Et il en rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Restitution, 4 fois. Et là, Nathan, le moment M est arrivé. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et Nathan dit à David, verset 7, « Tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de mon maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'en aurais encore ajouté. Je t'ai béni, et je t'ai béni, et je t'ai béni, et j'ai été encore béni, David. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. » Conséquence. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Et vous savez très bien qu'il a même perdu son premier fils. Waouh. Alors c'est dans cette histoire, on pense souvent à David et son péché, c'est très connu. Mais le héros de l'histoire, c'est qui ? Dieu, on est d'accord, mais c'est Nathan. C'est Nathan. Nathan qui a osé aller confronter ce roi par obéissance au Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'émotionnellement, il avait envie ? Moi, je ne pense pas. Mais il l'a fait parce que Dieu l'a appelé de le faire. Et ça, c'est le but de notre texte aujourd'hui. Ça, c'était tout l'intro. Excusez-moi, c'était un peu long, hein, d'accord ? Retournons à 2 Timothée 2. C'est ce qu'il lui dit de faire ici, en tant que serviteur. En fait, Paul ici va énoncer qu'un serviteur du Seigneur doit corriger ceux qui doivent l'être, et il va expliquer comment. Comment le faire. Et c'est ça où ça devient vraiment intéressant, c'est extrêmement pratique. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Je pourrais vous dire, ouais, bon, ça parle du serviteur de Dieu. John, c'est un message pour toi. Toi, t'es serviteur de Dieu. Hein, je suis pasteur. Donc, John, ça, c'est pour toi. Moi, j'attends le repas de midi. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche ici, d'accord? Et je vais vous dire pourquoi. Par exemple, et je vous donne simplement un exemple. Dans Matthieu 18, il y a un petit verset qui implique tout le monde dans la tâche de nous exhorter les uns les autres lorsqu'on pêche. Il est dit dans Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, à qui parle-t-il? Ben, il parle à un chrétien. À un chrétien qui a un frère qui pêche. Ben, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, etc. On est tous impliqués dans le devoir de reprendre ceux qui ont besoin d'être repris. Et on est tous impliqués si on doit être repris. Ben, ça, il faut l'accepter aussi d'être repris. Avec une grande humilité. Donc, je pense que c'est un message pour tout le monde ici. Comment aider un frère ou une sœur dans leurs problèmes, comment confronter quelqu'un qui doit être confronté, comment le faire? Eh bien, nous apprenons que le serviteur du Seigneur doit corriger ceux qui ont besoin de l'être de 8 manières. 8 manières, d'accord? On va les prendre. Vous voyez, ça va assez vite, il n'y a pas beaucoup de versets, bien qu'on pourrait développer chaque point longtemps. Regardez ces 8 manières, comment exhorter quelqu'un. Numéro 1, il doit corriger avec obéissance. Avec obéissance. Verset 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable à tous, propre à enseigner, doué de patience. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Ce que j'aimerais souligner pour commencer, c'est le mot serviteur du Seigneur. Et le mot serviteur, c'est le mot doulos en grec, c'est le mot esclave. Un esclave du Seigneur. Le mot était utilisé tantôt pour décrire un réel esclave, ou bien cette relation entre un serviteur et Dieu, entre un chrétien et Dieu. Nous sommes esclaves du Seigneur. Paul utilise souvent ceci dans Romains 1:1, Philippiens 1, etc. C'est intéressant, dans Corinthiens 6:19, on apprend que nous, on ne s'appartient même pas nous-mêmes. Et ça, vous le saviez, n'est-ce pas? 1 Corinthiens 6 et le verset 19, où nous apprenons ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même car vous avez été racheté à un grand prix. Voyez-vous, un chrétien ne s'appartient pas à lui-même. Il appartient à Dieu. Il est doulos. Il est esclave de Dieu. Et ce mot esclave décrit cette subordination au maître, cette obligation d'obéir au maître, au Seigneur. On n'a pas le choix. Un esclave n'a pas le choix. Il fait ce qu'on lui demande de faire. Et nous, nous avons un maître, Dieu, et voici son commandement. Nous n'avons pas le choix de l'obéir ou pas. Nous sommes appelés à l'obéir. Même quand on n'a pas envie. Même quand on est appelé à aller exhorter quelqu'un puis on n'a pas envie. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Je pense à un autre exemple. Imaginez qu'un ancien dans l'église pêche ouvertement, clairement, nettement. Et vous devez le reprendre. À vous d'y aller. Un ancien dans l'église. Vous avez envie ou pas envie? Vous n'avez pas envie. C'est intéressant, dans 1 Timothée 5, il est dit, verset 19, « Ne reçois pas d'accusation contre l'ancien, si ce n'est sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Ceux qui pêchent, les anciens qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. » Waouh ! Si un ancien pêche, il doit être repris devant toute l'Église, pour que l'Église craigne. Vous dites, alors là, ça fait peur. Ouais, c'est pour ça qu'il ajoute le verset 21. Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Vous savez ce qu'il est en train de dire ? Écoute, je sais que tu n'as pas envie. Bien sûr que tu n'as pas envie. Mais, je te conjure devant Dieu, devant Christ et devant les anges, fais ce que tu dois faire. N'aie pas peur. Obéis. Ça, c'est l'idée d'être un doulos du Seigneur. Donc, premièrement, il doit corriger avec obéissance. Deuxièmement, il doit corriger avec retenue. Avec retenue. Très intéressant, 2 Timothée 2, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Pas de querelles. Pas de querelles. Alors, c'est intéressant hein, ce qu'il dit. Pas de querelles. Tout à l'heure, on avait vu des discussions folles et inutiles. Verset 23, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. C'est le même mot ici, querelles. Il y a des types de discussions dans l'Église théologique qui sont bienfaisantes, utiles et nécessaires. On doit s'aiguiser les uns et les autres. On doit prendre la parole de Dieu. On doit l'écouter, on doit l'analyser, on doit l'examiner, on doit en discuter ensemble. C'est pour ça que dans Acte 17, 11, il est dit qu'ils reçurent la parole, parlant des Béréens, avec beaucoup d'empressement, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait était exact. C'est important d'examiner ce qu'on nous dit et d'en débattre et d'essayer de comprendre si c'est juste ou pas juste, ça c'est sûr. Mais il y a des types de discussions qui sont folles et inutiles aussi dans l'Église, qui font naître des querelles. Ces discussions-là mettent le doute sur les Écritures, ébranlent les éditeurs, créent l'incertitude, tordent la vérité et produisent des querelles, voire des divisions. Et si une personne persiste dans ce genre de querelles, eh bien la Bible est très claire dans Tite 3.10, s'il y a des divisions qui se créent par rapport à cela, éloigne de toi, Tite 3.10, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il y a un moment donné où il y a des discussions qui créent le trouble et à ce moment-là, il faut écarter la personne. Le mot querelle est intéressant. Littéralement, c'est le mot pour combat. Tantôt combat physique, acte 7, 26. Donc, il ne faut pas se donner des coups de poing dans l'église, d'accord ? Pas de claque. Pas de coup de poing, d'accord ? Bon, c'est tout bête, on est d'accord. Mais aussi des combats de parole. Des combats de parole. Faut pas. C'est intéressant, le dictionnaire définit le mot querelle comme ceci. Différent, passionné, opposition assez vive pour entraîner un échange d'actes ou de paroles hostiles. Un échange de violence, conflit plus ou moins violent pouvant dégénérer en guerre. D'accord ? Donc il y a certains conflits qui peuvent devenir carrément une guerre. Là non, le serviteur de Dieu ne rentre pas dans ce genre de conflit, du moins il essaye. Alors, vous savez, il y a des gens qui ont des natures querelleuses. Ils cherchent à pousser ce bouton qui fait exploser. Les gens qui cherchent la guerre. Non, le serviteur de Seigneur ne cherche pas ce genre de choses. Il fuit ce genre de choses. Enfin, il les fuit, on se comprend. Il ne veut pas rentrer dans ce genre de discussion. Pourquoi pas ? Parce que ça crée des problèmes. Ça crée des divisions, on l'a vu. Alors, qu'est-ce que ça ne veut pas dire ? Qu'il n'est pas de querelle. Ça ne veut pas dire qu'un serviteur de Dieu ne doit pas être clair théologiquement et qu'un débat théologique n'est pas approprié. 2 Timothée 2,15, on l'avait vu. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Oui, un serviteur de Dieu doit dispenser droitement, tout faire de son mieux pour examiner et analyser correctement la parole de Dieu, s'il est appelé à faire ça. Et peut-être le serviteur de Dieu va devoir même être sévère quant à l'erreur et la discussion folle et inutile qui pourrait faire dégâts dans l'Église. Il y a une différence entre un débat théologique sain, juste et droit et un désir de querelle. C'est très différent. Donc, le serviteur de Dieu, deuxièmement, doit corriger avec retenue. Alors ça, c'est dur, hein? Parce que déjà, le problème dans l'Église, c'était justement des discussions folles. Alors comment maintenant tu vas confronter quelqu'un sans rentrer dans les discussions folles qui créent les problèmes? Là, il faut énormément de tact, d'humilité, de compréhension, de sagesse du Seigneur. Et ce n'est pas toujours facile. Trois, il doit corriger avec affabilité. Affabilité. Alors, si vous êtes comme moi, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, donc je vais regarder, d'accord, dans le dictionnaire. Alors, c'est intéressant, le dictionnaire définit affabilité comme ceci. À qui on peut parler, qui accueille et écoute de bonne grâce ceux qui s'adressent à lui. En fait, ça veut dire accueillant, aimable, bienveillant, gracieux, poli. En fait, le serviteur de Dieu doit être approchable, abordable, accessible, accueillant. En fait, il est sympa et il est gentil. Voilà ce que ça veut dire vraiment. C'est pas un hérisson. C'est pas un hérisson. Non, il est sympa. Il est abordable. On peut parler avec lui. Un Thessaloniciens 2,7 utilise ce mot pour décrire ceci. Nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un soin de ses enfants. D'accord? C'est l'idée d'être doux. Cette douceur qu'un parent a pour son enfant, c'est la même douceur qu'un serviteur de Seigneur doit avoir avec les personnes qu'il doit peut-être reprendre. Alors, ça j'ai beaucoup réfléchi à ça. Hein. Il y a un verset très intéressant dans Romains 12, 18 qui dit ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ça, c'est l'intention du serviteur de Dieu. Son désir, c'est de trouver une solution de paix, de pouvoir vraiment être réconcilié de ces personnes qu'il doit reprendre, que ces personnes se repentent et s'intègrent bien dans l'Église. Ça, c'est le but cherché. Et dans ce sens-là, il doit être affable envers tous. Même envers ceux qui peut-être créent des problèmes. Et c'est intéressant, c'est cette même affabilité, si ça se dit comme ça, dans 2 Pierre 2,21, que le Seigneur lui-même a expérimenté. Et c'est cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point injure. Maltraité ne faisait point de menaces. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. C'est intéressant. Alors, c'est pas que Jésus ne s'est pas défendu, il s'est défendu. Matthieu 23, il condamne ouvertement et clairement les pharisiens. Dans Jean 8, 44, il les appelle sataniques. Il dit que leur père est Satan. Donc, il s'est défendu. Mais à un moment donné, il l'a toujours fait, disons, avec ce tact, avec cette affabilité, avec cet amour. Même avec Judas, il était toujours prêt à recueillir et accueillir Judas s'il s'était repenti. Il ne l'a pas fait. Donc c'est ici vraiment dans la manière de faire. Affabilité. Je trouve intéressant Galates 6, 1. Frères, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Alors les gens pourraient dire, ouais, ben alors dans ce cas-là, peut-être j'ai même pas besoin de le reprendre, je dois être doux. Non, c'est pas ça. Il faut le reprendre, mais avec douceur. 4. Il doit corriger avec instruction. Avec instruction. Encore, il dit au verset 24, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner. Ça veut dire quoi? De nouveau, il doit être doué à l'enseignement, capable d'enseigner. C'est ce que les qualifications pour être ancien, c'est une des qualifications, vous vous rappelez, dans 1 Timothée 3,2, il dit « Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Pourquoi ? Ben c'est clair, Tite 1:9 nous le dit. Il est donc l'ancien attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Un ancien doit bien maîtriser la parole de Dieu pour qu'il puisse refuter les contradicteurs. Donc la pression est sur l'ancienat. L'ancienat doit connaître sa matière pour pouvoir réfuter. Alors, que se passe-t-il si le désaccord, il y a un désaccord clair et net dans l'Église, d'accord ? Il y a une position sur n'importe quoi, et il y a un désaccord, il y a un conflit grandissant, il y a des querelles peut-être, sur une position biblique, d'accord ? Qui tranche ? Qui a le dernier mot dans une Église ? C'est une question très intéressante, ça. Eh bien, je pense que la réponse, elle est logique. Ça doit être les anciens. Les anciens d'une église locale doivent avoir le dernier mot. C'est comme ça, je pense, que Dieu l'a explicité. Alors, vous pouvez parler avec les anciens, leur expliquer votre point de vue. Eux, ils doivent être affables, doux, gentils, approchables. Ils sont d'accord de discuter. Oh, pas de problème, on discute. Mais si ça commence à maintenant provoquer des problèmes, quelle que soit la situation, ça commence à créer des querelles, ça commence à créer des divisions. Qu'est-ce qu'on fait ? À un moment donné, quelqu'un doit prendre une décision. L'ancien. Bibliquement, ce sont les anciens, des anciens dûment établis par l'Église locale, qui doivent trancher, sachant qu'ils sont responsables devant Dieu pour leurs décisions. S'ils se trompent, ils sont redevables devant Dieu pour cette décision. Mais quelque part, c'est eux qui doivent prendre la dernière décision. C'est obligé. Dieu a établi l'ancienat comme mode de gouvernance dans l'Église locale. Et je pense que c'est d'ailleurs pourquoi les critères sont tellement élevés pour être ancien dans 1 Timothée 3 et Tite 1. Ça fait peur. Dans Acte 20, juste quelques versets par rapport à ce point, 20-27, il est dit ceci. Verset 26, c'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sous lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, ancien, pour paître l'Église de Dieu qui s'est acquise par son sang. C'est intéressant. Et lorsqu'un ancienat, dûment élu dans une église locale, eux sont mis là par le Saint-Esprit. Alors vous dites, ouais, mais s'ils se trompent, ils sont redevables devant Dieu s'ils se trompent. Ça, c'est sûr. Il peut y avoir des mauvais anciens, on est d'accord. Mais selon ces versets, quelqu'un doit trancher. C'est qui tranche ? Ça doit être les anciens s'il y a un problème. Hébreux 13, 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant et qu'ils ne vous seraient d'aucun avantage. 1 Pierre 5, 5, qui nous en parle aussi. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. 1 Thessaloniciens 5, 12. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Donc c'est intéressant, n'est-ce pas ? Le serviteur du Seigneur, comment fait-il pour exhorter quelqu'un qui doit être exhorté ? Avec instruction, selon la parole de Dieu. Et quelque part, si vraiment il y a un conflit qui perdure, quelqu'un doit trancher, c'est l'ancien. Bibliquement, je pense que ça c'est très facile à montrer. Et je pense que c'est ce que Paul est en train de dire à Timothée ici. 5. Il doit corriger avec patience. Avec patience. Très intéressant, encore dans verset 24, décidément il est long. Il dit... Il ne faut pas qu'un serviteur de Seigneur ait des querelles, il doit au contraire être affable pour tous, propre à enseigner, doué de patience. Ah, c'est pas facile, hein. Doué de patience. Moi, je crois que c'est la qualification la plus difficile à appliquer. Surtout si on a fait tort au serviteur du Seigneur. Moi, je pense que Timothée peut se dire, mais c'est à eux la faute. Pourquoi c'est à moi d'être patient, voyez ? Ce serait facile de dire ça. humainement, surtout si c'est injustifié, ben on aurait l'envie de se venger, de se justifier, de crier haut sur les toits tout le mal qui nous a été commis. À Corinthe, c'était tellement un problème. Pour se tirer dessus, ils allaient chercher carrément les cours de justice du monde. Ils se faisaient des procès entre eux. Il n'y avait pas beaucoup d'amour dans cette église. Hein. Des procès par des avocats du monde, l'un contre l'autre. En Corinthiens 6. Non, ici, Paul il dit à Timothée, non, réagis avec patience. Patience, il faut donner du temps. Là, on passe au verset 25. Regardez. Il doit corriger avec douceur. Il doit redresser avec douceur les adversaires. Hein, c'est intéressant, tous les adjectifs ici, tous les descriptifs. Maintenant, c'est de la douceur en plus. Avec amabilité, délicatesse, bonté, bienveillance, considération, c'est l'opposé de la dureté, de la cruauté, de la violence. Un serviteur de Dieu, donc, ne devrait pas être dur, ne devrait pas être cruel, ne devrait pas être violent. Pas facile de redresser avec douceur. Galates 6, 1, je viens de le lire. Frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. C'est comme avec un enfant. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Comment on corrige un enfant? Eh bien, c'est intéressant. Il y a un mélange. Il y a un mélange de fermeté, de discipline, mais avec la douceur d'un parent, n'est-ce pas? Avec amour, avec doigté. On ne veut pas faire fuir l'enfant, on veut que l'enfant nous aime. Mais en même temps, il faut le discipliner. Et c'est cet équilibre qu'il faut trouver dans l'Église aussi. Tout doit se faire avec amour, avec douceur. En fait, ça passe au septième point. Il doit non seulement corriger avec douceur, mais avec fermeté. Ça, je trouve intéressant. Il doit redresser avec douceur les adversaires, mais il faut reculer, il doit redresser. Il doit redresser. Et c'est intéressant le mot pour redresser, c'est un mot duquel on dérive le mot « enfant » en grec. Enfant. Il faut faire avec eux ce qu'on fait avec un enfant. On instruit, on éduque, on guide un enfant. Alors comment on fait? Éphésiens 6 nous dit qu'on élève les enfants en les corrigeant et en les instruisant. On instruit beaucoup. Et on corrige beaucoup. Instruction, correction. Instruction, correction. Instruction, correction. Alors c'est intéressant, là il dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Comment faire concrètement? Concrètement. Ben on le voit, regardez, on va regarder quelques versets. Premièrement, il faut les redresser, d'accord? Il faut les redresser, il faut leur parler, leur expliquer. Dans Tite 1.9, je l'ai lu tout à l'heure encore, mais il dit quoi? Dans Tite 1.9, il nous explique comment faire. Il faut être attaché à la vraie parole, comme elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il faut les exhorter et les réfuter. Dans Tite 1.13, il dit, c'est pourquoi reprends-les sévèrement. Afin qu'ils aient une foi saine. Parfois, il faut être sévère. Il faut reprendre parfois sévèrement. Alors avec amour, douceur, tact, mais sévèrement. Pas facile, hein? Tite 3.10, c'est encore plus explicite. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Donc à un moment donné, il faut éloigner la personne. Il faut lui dire, écoute, maintenant, la porte, elle est là, quoi. C'est ce qu'il dit. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Il y a des cas encore plus radicaux, plus extrêmes. Il faut parfois livrer des gens à Satan. Ça, c'est incroyable. Paul, à un moment donné, il dit dans 1 Timothée 1:20, « De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. » Il y a un moment donné où il y a une dureté dans la discipline, mais dans l'amour et la douceur. C'est ça qu'il faut vraiment prier, quoi, que le Seigneur nous aide. Mais c'est intéressant, il le livre à Satan afin qu'il apprenne à ne pas blasphémer. Donc c'est presque le dernier recours, là. Le dernier recours, écoute, là, on sait plus quoi, tac, on t'envoie dans le camp de Satan et lui il va te casser pour que tu arrêtes de blasphémer. C'est intéressant, Matthieu 18 nous dit aussi, il y a 4 étapes pour la discipline d'église. La dernière étape, on dit à sa personne, ensuite avec 1 ou 2 témoins, ensuite on dit à l'église. Et la dernière étape, il dit, s'il refuse de l'écouter à l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. À un moment donné, si la personne refuse de se repentir, on doit considérer cette personne un non-chrétien. T'es un païen publicain, nous on te considère un païen publicain. C'est radical. C'est vraiment radical. Dans 1 Corinthiens 5, il y a beaucoup de versets aujourd'hui, hein. 1 Corinthiens 5, 11, on l'a lu la semaine dernière, « Maintenant, ce que je vous ai écrit de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, c'est un chrétien qui se dit être chrétien, qui est débauché, cupide, idolâtre, outrageux, ivrogne, ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. » Il y a un moment donné où on coupe les relations. On ne mange pas cette personne avec cette personne et on n'a pas de relation avec elle. Ça, c'est dans les cas vraiment extrêmes. Et 1 Corinthiens 5, 13 le dit comme ceci. « Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. » C'est intéressant, vous ne trouvez pas ? Ouais, dans les cas extrêmes, il faut aller à des étapes extrêmes. Et je pense que ça, la leçon pour nous, mes amis, et ça c'est la leçon, moi j'en ai tiré beaucoup de ce message, c'est que on doit traiter les problèmes rapidement. Ça c'est ce que j'aimerais vraiment nous communiquer. Écoutez, nous sommes une nouvelle église, ça fait 2 ans et quelques que le Seigneur nous bénit. Il y a une joie de vivre. Moi je vous dis franchement, lundi matin je suis prêt à revenir dimanche. Moi j'aime venir ici. De partir 3 semaines, c'est vraiment lourd sur mon cœur parce que j'ai envie d'être avec vous, d'accord ? On est dans un élan de joie, de bonheur. Le Seigneur bénit, des gens sont venus au Seigneur de manière régulière. On a eu des cultes de baptême fabuleux, on a eu des concerts à droite, des conférences à droite. Mais écoutez, c'est incroyable ce qu'on a vécu. Mais soyons vigilants. Soyons vigilants. Moi, je vous demande vraiment, si vous sentez un problème, s'il y a un désaccord avec quelqu'un, avec toutes ces qualifications qu'on a vues aujourd'hui, cette douceur, cet amour, allez voir la personne, qu'on puisse résoudre les problèmes rapidement. Rapidement. Et si on résout rapidement, il n'y aura pas de gros problèmes. Mais il faut les résoudre rapidement. Ça, c'est vraiment l'appel que je vous fais aux uns et aux autres. Et dernier point, il doit corriger avec espoir. Regardez, c'est incroyable ce verset. Et c'est là où on réalise que on est vraiment un peuple qui doit faire confiance à la souveraineté de Dieu dans chaque domaine. Il dit dans 2 Timothée 2, le verset 25, qu'il doit redresser avec douceur les adversaires. Regardez, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Voyez-vous, c'est intéressant, ce verset nous montre que notre action de corriger et de discipliner ceux qui sont dans l'erreur, écoutez bien, n'est pas conditionnelle à un possible succès. On ne va pas reprendre quelqu'un parce qu'on se dit « Ah, cette personne va se repentir ». Ah, je suis sûr que si j'y vais, le Seigneur va bénir et le Seigneur va résoudre le problème. Ça, c'est le souhait voulu, mais peut-être ça va pas arriver. Parce que là, on voit que la repentance des adversaires, bien sûr que c'est le désir voulu, mais le succès est lié à notre obéissance à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Leur repentance est liée à l'action de Dieu dans leur vie sur laquelle nous n'avons aucun contrôle. Je n'ai aucun contrôle sur le cœur d'une personne. Je n'ai que le contrôle sur l'obéissance de faire ce que Dieu me demande de faire. Donc Dieu me dit, John, il y a quelqu'un, va parler avec cette personne pour redresser la situation. J'y vais. Avec amour, tact, humilité, gentillesse, etc., etc. Et j'espère, avec espoir, que Dieu leur donnera repentance. Mais en fait, c'est comme l'évangélisation, pensez-y. Pourquoi on va évangéliser? Parce qu'on sait qu'on aura du succès? Non. Moi, je n'ai aucune idée. Qui Dieu va toucher? Quel cœur il va ouvrir, comme il dit? Non, moi j'y vais par obéissance. Une occasion se présente, j'annonce l'évangile. Mais nous, on regarde, on est des spectateurs à l'œuvre de Dieu dans un cœur, n'est-ce pas? C'est pareil pour la repentance vis-à-vis d'un péché. Notre travail, c'est de redresser avec douceur les adversaires. Le travail de Dieu, c'est de leur donner la repentance. Quand il veut, comme il veut. Et en fait, on espère en 4 résultats, c'est ce qu'on voit ici. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que, 1, Dieu leur donnera la repentance. Que Dieu leur donnera leur repentance, et ça on le voit, il y a d'autres versets qui parlent du fait que c'est vraiment Dieu qui agit sur un cœur pour qu'il puisse se repentir. Dans Actes 5, 31, on lit « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince de sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Ça vient de Dieu. Même la capacité de pouvoir se repentir vient de Dieu. C'est incroyable, non? C'est ce qu'il dit. Je ne fais que lire ce que la parole de Dieu dit. Acte 11, 18 le dit comme ceci. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Dieu accorde la repentance. C'est l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, on espère qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. C'est ce qu'il dit dans le verset 25. Qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Qui implique qu'ils n'étaient pas dans la vérité, mais qu'ils ont besoin d'être dans la vérité. Nous, on peut annoncer la parole de Dieu, on peut expliquer les choses, mais que Dieu peut leur donner ces compréhensions. Troisièmement, qu'ils reviennent à leur bon sens, c'est ce qu'il dit au verset 26, revenus à leur bon sens, qu'ils redeviennent sobres par rapport à leur foi. Souvent, quand quelqu'un est dans le péché, il voit mal les choses, et il devient brouillé. Et quatre, qu'ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Waouh ! Là, on pourrait faire la 5e partie du message, mais je ne vais pas le faire. Satan. Il y a Satan qui arrive dans l'histoire ici. Les pièges du diable. Et on sait très bien que Satan, mes amis, est extrêmement puissant et qu'il a son mot à dire par rapport à nous, notre personne, notre Église, il déteste les chrétiens et il déteste l'Église. Et il déteste Jésus-Christ. Et il veut piéger. Chapitre 4, verset 1 de 1 Timothée, « L'Esprit dit exprimement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. » On a déjà vu ces choses. Le diable est bien réel et il cherche à nous dévorer. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Satan est réel et il nous tend des pièges. Mais c'est intéressant que même là, c'est l'œuvre de Dieu. Nous, on ne peut qu'obéir et regarder Dieu travailler dans leur cœur. Alors voilà. Voilà à quoi est appelé un serviteur de Dieu ce matin. Comment doit-il reprendre et corriger ceux qui doivent l'être? Premièrement, avec obéissance. Deuxièmement, avec retenue. Troisièmement, avec affabilité. Quatrièmement, avec instruction. Cinquièmement, avec patience. Sixièmement, avec douceur. Septièmement, avec fermeté. Huitièmement, avec espoir. Vous vous rappelez l'histoire de David au début? J'aimerais vous montrer, juste pour terminer, quelque chose d'incroyable. 2 Samuel 12. Et le verset 13. Nathan a confronté David. Le résultat ? Verset 13. David dit à Nathan : J'ai péché contre l'Éternel. Ah, j'ai des frissons là. Et Nathan dit à David : L'Éternel pardonne ton péché. Il y a eu des conséquences, bien sûr. Des conséquences. Il a perdu son fils. Il y a eu des gros problèmes dans sa famille plus tard. Mais il a été pardonné parce qu'il a demandé pardon. Il a été tellement bouleversé par cela que plus tard, David s'est assis un jour et il a écrit un psaume par rapport à cet incident. J'aimerais vous lire quelques versets du psaume 51. Écoutez, c'est David qui écrit après que Nathan l'ait confronté. Psaume 51, au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fût allé vers Bathsheba. Ah, ce que la Bible est honnête quand même. Et voici la confession de David après son péché. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le verset 19. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Waouh ! Chapeau Nathan. Chapeau Nathan. Car à cause de Nathan et son obéissance, on a le psaume 51, j'ai des frissons sur mon corps entier là, y penser. Et ça, c'est ce que Dieu veut de nous. D'un côté, que nous soyons humbles et que nous recevions l'exhortation lorsqu'elle vient vers nous, justifiée, et que nous allions par obéissance, avec douceur et tact, confronter ceux qui ont besoin de l'être, et qu'ainsi, on se retrouve tous au pied de la croix, pardonnés, lavés et propres. Amen. Seigneur, merci. Oh, merci. Ta parole est si claire et si puissante. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-moi. Combien de fois est-ce que j'ai erré dans toutes ces choses ? Seigneur, je te demande pardon et je te prie de m'aider, de nous aider les uns et les autres, Seigneur. À être courageux. Et à faire ta volonté, Seigneur. Merci pour Paul, merci pour Timothée, merci pour la parole, merci pour chaque personne ici ce matin. Seigneur, il n'y a que toi qui sais comment toucher les cœurs, il n'y a que toi qui sais ce qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui. Seigneur, applique ta parole par ton Saint-Esprit dans chacune de nos vies ce matin. Peut-être que le repas, Seigneur, soit une occasion de parler les uns avec les autres, peut-être qu'il y a des choses à régler ici, peut-être, Seigneur, tu peux utiliser ce temps de communion fraternelle. Que nous soyons courageux et audacieux. Seigneur, protège notre Église. Bénis-la pour ta gloire et uniquement ta gloire, Seigneur. Aide-nous à être des Nathans. Aide-nous à réagir avec humilité comme David l'a fait. Seigneur, merci. Gloire à ton nom.